RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten, Daniel Riolo, alors plusieurs choses avant de parler de Ribéry. Déjà, une lettre de notre ami, notre collaborateur, notre producteur, Jérôme Thomas. Il m'a écrit cette nuit à 2h du matin. Il s'insurge, il travaillait pas hier hein, mais il est couche-after quand même, et je pense que ça a tourné dans sa tête, tu vois, il a fait le tour de son appart 12 fois, il est allé prendre l'air et tout, et il s'est parmi d'un truc qui a été dit hier soir dans l'after. Je vous lis sa lettre. Il y a un gros souci, me dit Jérôme. Comment Rennes peut-il être troisième du baromètre du kiff? Et la question, je me l'auto-soumets, dit-il en réussissant à mettre ma route de Lorient de côté. En 118 ans d'existence, c'est la meilleure saison de l'histoire du club. Voilà, 8e de finale d'Europa League, t'as jamais gagné un match en poule pourtant. Victoire en Coupe de France, entraîneur qui est un Rennais. En plus, Guingamp qui descend en Ligue 2. Je m'insurge, vous osez mettre Lille et Strasbourg devant Rennes? Non, Rennes doit être numéro 1 du top 5 du kiff, nous dit Jérôme, devant Lille et Strasbourg.
Oh, bon, si ça lui fait plaisir.
Bah lui, oui, c'est sûr. Donc, moi, je l'ai fait kiffer. Il a fait la finale de la Coupe de France avec moi. En tribune présidentielle.
Non, mais là où il a raison, c'est que Lille, qu'on a mis premier, c'est pas la plus belle saison de l'histoire du club. Et Strasbourg non plus.
Oui,
donc il a raison.
Moi, oui, je mettrais Strasbourg kiff en deux alors. Parce que quand même, elle a remonté les
saisons. Oui, mais attends, est-ce que c'est sur l'histoire du club ou c'est ce que les dernières années?
Forcément, le kiff est plus fort si c'est la première fois de ta vie que tu viens tri.
Ouais, mais quand tu vois Strasbourg, d'où ils viennent ces dernières années.
Bah, Strasbourg est peut-être deux, mais Rennes, effectivement, l'argument se tient. Ils ont jamais vécu un truc pareil, donc ouais, ça peut être eux.
Ouais, et puis gagner un trophée en plus. Ouais.
C'est eux en un. Alors, ok, j'accepte l'argument.
Jérôme, très bien. Donc, c'est définitif.
Objection retenue.
Rennes terminera premier du top 5.
Ah oui, c'est vrai que c'est un titre.
Voilà. Je précise d'ailleurs que le match est terminé depuis longtemps au Mans. Hein, le Gazalec a gagné 2-1. Je l'avais dit, je sais plus si je l'avais dit, mais je le répète. Deuxième petit truc, le match de l'after. Vous savez qu'on en parle un peu tous les soirs, hein, d'ici à la draft qui va démarrer mardi prochain. La liste des 40 joueurs est quasiment bouclée. Mardi prochain, on démarre la draft avec vous, les gars. Vous allez choisir et tout, chacun votre tour.
Je sais qui est mon numéro.
Je sens qu'on va se marrer grave. Ça va être énorme. Tous les soirs, je vous dévoile un joueur qui sera là. Je vous annonce ce soir deux joueurs, deux attaquants.
Mais t'as dévoilé qui avant, là? Parce que...
Ah, hier, t'étais pas là. Hier, j'ai dévoilé Pierre Ducrot. Et les drôles de dames qui seront là.
Mais Julien Ducrot,
Laurence.
De le dévoiler,
oui, c'est pas des infos, ça, on le sait déjà.
Bah, je vous donne deux joueurs ce soir. Il y en a un, alors là, qui est chaud, affûté. Le mec fait du crossfit tous les matins. Denis Charvet.
Ah, Denis Charvet.
Denis Charvet, chaud bouillant. Déjà. Et meilleur joueur de rugby du monde en 87.
Tu penses qu'à la draft, on le prend en combien? En 15e, 16e position, Charvet?
Denis. 28.
Sur 40?
28.
Non, sur 40, je sais, est-ce que tu sais qui est le 39e et le 40e?
Non. Bah non.
Simonet et David Lorto.
Ou Adrien Aigouin.
David Lorto est là?
Oui. Non, Adrien Aigouin est 40e de la draft, je pense.
David
Lorto 39e et Simonet 38e.
Je pense que David est plus mauvais. Non, mais le pire, c'est ça, c'est qu'il essaye de jouer. C'est
et
ça,
je vous annonce la présence d'un champion olympique de boxe, attaquant lui aussi.
Ah, Brahim.
Brahim Asloum.
Ouais. Enfin, ils peuvent pas tous être attaquants, hein. C'est les entraîneurs qui décident. Faut que les mecs, ils s'inscrivent, faut pas qu'ils disent,
je veux jouer là. Hein.
Ça, c'est terminé, on me l'a fait l'année dernière, ça va, c'est terminé maintenant.
Et je vous annonce la présence, je vous donne pas les noms, de trois champions du monde, 98 également, dans la draft. Et je vous donne pas les noms. Je donnerai dans un autre.
Bah oui, vous êtes Manu, Francky.
Eh ben non. Ah non, t'as tort.
Non.
Il y en a d'autres qui sont même pas, qui bossent même pas avec nous, qui veulent venir et qui sont là.
Bernard
Diomène.
J'en ai un. Non, moi j'en ai
Bernard
un.
Bernard Lama.
Non.
Non, mais on dit pas ce soir. Il va y avoir du lourd, mais du lourd dans ce match de l'after. Je rappelle que c'est ouvert à tout le monde. Gratuit.
Il y a eu un duo le important 10, en France.
Lundi
à un moment.
10. En plus, c'est férié
et
lundi 10.
De ce duo.
C'est lundi de Pentecôte, donc c'est facile. Hein. Vous venez.
Daniel.
C'est gratuit. Hein. Vous entrez au Stade Bauer, vous avez toute l'équipe de l'after.
Il faisait partie d'un duo très important dans un club. Sur les dernières années. Et en plus, il est champion du monde.
C'est vrai. Ouais. Et je précise que vous pouvez vous aussi jouer en envoyant votre tweet.
Ça
je vous rappelle.
J'ai rien compris.
Envoyez un tweet avec le hashtag match de l'after. Un tweet pour être convaincant.
Souvent,
n'hésitez pas à le faire.
Ce club, c'est ces deux joueurs-là qui ont fait la différence.
Bref, bon, Daniel, c'est pas grave. Tu cherches, tu trouves. Juste, je vous lis un tweet qui a été bon. Là, j'ai tweeté, par exemple, Karim qui m'a envoyé. Écoutez ça, tiens, par exemple, exemple de bon tweet pour être sélectionné au match de l'After. Karim qui nous dit, je ne sais pas comment les petits merdeux de l'After vont jouer, mais on va leur marcher dessus.
Qui a dit ça?
Un tweetos pour se faire sélectionner au match de l'After.
C'est drôle.
C'est vrai qu'il connaît l'After, le gars.
C'est drôle.
C'est pas mal. Ouais, il sera peut-être sélectionné, Karim.
C'est possible.
Donc, tentez votre chance. Et puis, avant de parler de Ribéry, on s'est un peu, gentiment, parce qu'on l'aime bien, moqué de Jean-Michel Aulas pour son anglais. Rappelez-vous, il a dit ça.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
Alors, Daniel Riolo ricane. Mais dans le RMC Poker Show.
Qu'est-ce qu'il nous a
fait?
Non.
Lui aussi a tenté de parler anglais.
Oh non.
Et qu'est-ce que mais ça a donné?
T'as pris un mauvais moment.
Ça a donné ça.
Need people like you and the young player now.
Excuse-moi, t'es en train de me charrier tout à l'heure, mais frérot, excuse-moi.
And the young player not as you before.
Oh là là, non. Je ne veux plus t'entendre parler
de Michel. C'est juste que j'ai pas d'accent, mais c'était pas. La phrase se tenait. C'est juste que j'ai un très mauvais accent, que je ne cherche pas à en avoir un bon. Mais l'important, c'est de se faire comprendre de tous les interlocuteurs.
La phrase où elle est venue comme ça.
Absolument pas. Et bon, je parlais à l'un des plus grands champions de l'histoire du jeu.
Ouais, je pense que là, il s'est dit, oh là là, où je suis tombé.
Absolument pas. Absolument
donc,
pas.
Moundir, il t'appelle frérot et tu dis rien, toi. T'es pas choqué.
Moundir, il t'a dit frérot.
Non, pourquoi tu veux que je sois choqué?
Ok, frérot.
Il a fait une bonne perf à Barcelone.
Sur le premier tournoi, ouais, il a fait une bonne perf. Après, ça a été un peu cata, comme moi d'ailleurs.
Bon, mais dans les
petites parties, je t'ai pas demandé parce que t'en as pas parlé. Donc,
tu rigoles. Dans les parties privées qu'on a fait à côté, j'ai ramassé.
Ah oui, non,
j'ai ramassé deux trois. Bah, s'il y a des ronds.
Ouais, mais bon.
Les parties privées, il y a des ronds.
Vérifiable.
Bon, ça, c'est vérifiable.
Bah, c'est vérifiable.
Tu veux que je te mette l'oseille sur la table? Il est marrant, lui. Je m'en fous que tu me crois ou pas, moi.
Bah voilà, c'est ça. Mais les tournois, par contre.
Non, les tournois, j'ai malheureusement constaté que j'avais beaucoup de mal au tournoi avec énormément de gens. C'est la concentration. Je me concentre pas.
Top Franck Ribéry, s'il vous plaît. Il était donc dans Team Dugas cet après-midi. Il a parlé de plein de choses. Surtout, il a parlé de son avenir. Alors, on l'a envoyé au Qatar, on l'a envoyé en Australie, on l'a envoyé dans d'autres endroits aussi. Mais, il se dit, peut-être que j'ai encore le niveau, là, pour jouer en Ligue 1. Et pourquoi pas à l'OM. Écoutez Franck Ribéry.
Je suis libre.
Ben oui, c'est pour ça que tu vas écouter les propositions.
Bien sûr.
Rien n'est interdit aujourd'hui, c'est que du bonheur.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que Villas-Boas pour entraîner l'OM, ça t'inspire quoi? Tu penses que c'est une bonne idée?
Je pense. C'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, un entraîneur qui connaît bien le foot. Et j'espère vraiment que va faire du bien à Marseille.
Voilà, donc on lui dit alors, la Ligue 1, l'OM, je suis libre.
Bah oui, qu'est-ce que tu
veux vraiment qu'on réponde à ça donc.
Est-ce que il serait un bon coup pour un club de Ligue 1 à 36 ans?
Moi oui.
Vraiment qu'on réponde à ça donc.
Bah oui. Moi
je vais essayer de répondre Jean Bretagne alors.
Moi je vais te dire oui, c'est un bon coup quand tu le vois les dernières perfs, encore le dernier match qu'il fait.
Et où est-ce que tu l'imagines? Dis-moi dans quel club de Ligue 1 Ribéry après 10 ans au Bayern au top niveau, dis-moi dans quel club de Ligue 1 il a envie d'aller.
Non mais
à son âge.
Non mais attends.
Il va déménager, installer sa famille ou dis-moi.
Je me mets
à Rennes.
Je suis pas
à Lille, à Strasbourg. Où est-ce que tu le vois?
Daniel, moi je suis pas dans sa tête. Moi, il dit je suis libre à tout. Il a pas dit.
Il pose des questions en tout cas.
Il a pas dit je veux pas revenir en France. Il aurait pu être clair en disant non, je veux aller en Chine, je veux aller à Dubaï.
Je crois qu'à Marseille, je verrais bien moi.
Et
je crois même pas.
Donc si lui a encore envie, après c'est une question d'envie.
Marseille,
ils
sont pas assez vieux déjà.
Ouais, non, mais attends.
Non, pas déjà des joueurs.
Non, mais il y a vieux et vieux, hein.
À bouteille.
Ouais, mais attends.
C'est bon, là.
Entre Ribéry et Payet, tu fais jouer qui?
Écoute, moi, je te dis que.
Franchement, la question m'intéresse même. Je sais même pas quoi te répondre.
Si Ribéry a encore envie.
Si j'ai un tantinet, un projet club, c'est ni l'un ni l'autre, quoi.
Mais c'est.
Si j'ai dans la tête de construire quelque chose.
Jérôme.
Moi, c'est tellement dans la tête à un certain âge, le foot, que quand t'arrives, tu dépasses les 30 ans, là, et 35, et surtout quand t'as autant gagné que lui a gagné au Bayern, on peut pas être dans sa tête, mais si lui a réellement envie d'un projet en France ou ailleurs, je pense que c'est une bonne affaire pour n'importe quel club. Parce que ça reste un joueur qui est capable de dynamiser n'importe quelle attaque, aider avec l'expérience qu'il a, aider ses coéquipiers, des plus jeunes à côté, et puis faire des différences. Encore, moi, j'ai vu le dernier match à domicile de championnat, c'était son dernier match.
Ouais.
Vous avez vu le but qu'il marque? Voilà, bah, ça montre à quel point il est encore au niveau et surtout affûté. C'est ça le plus important.
Vous retrouvez toutes les infos de l'interview de Ribéry sur rmcsport.fr. Hein. Bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez y aller, vous retrouvez tout ça. Il a parlé de plein de choses. Hein. Bien sûr, Franck Ribéry, c'était tout à l'heure dans Team Dugas. Plein d'autres infos, les gars, aujourd'hui. Il s'est passé plein de trucs. Hein. Aujourd'hui, c'est une journée un peu dingue. Je vous livre ça en bref. Christophe Pélissier quitte Amiens. Il devrait atterrir à Lorient.
Il s'est passé plein de choses. Si tu
à Lorient
ça, j'ai peur de ce qu'il va y avoir derrière.
Non, mais je sais pas.
Il va à Lorient, il prend la place de Landreau.
Non, mais ça, on savait, mais qu'il était plus là.
Landreau, c'est étonnant quand même, parce que vraiment, ça démarrait très bien. Quoi.
Officialisation.
J'avais douté que ça marche en plus.
Officialisation de Leonardo et Gattuso qui quittent Milan. Officialisation aujourd'hui. Simone nous le disait.
Laisse passer l'occasion de récupérer Leonardo. Là, je comprends plus rien.
Il nous le disait dès hier soir, Simonet. Donc
là, c'est fou.
Voilà.
Là, c'est fou.
Moi, écoute, je suis là-dessus. Je t'écoutais, Daniel, hier. Non, c'est vrai que il y a du bon et il y a du bon de le récupérer. Mais moi, j'ai du mal avec le réchauffer, c'est tout.
Faire du neuf avec du vieux, t'aimes pas?
Ouais. Il est parti.
Le réchauffer, franchement, ça dépend des plats. Hein. Il y a des plats réchauffés le lendemain. Non, c'est pas mal du tout.
Je suis d'accord.
Les lasagnes, par exemple.
Mais il y en a quand même.
Fraîche,
mais il y en a quand même pas beaucoup.
Non, ça marche, je te promets, ça peut marcher.
Non, mais c'est bien.
Le réchauffé du lendemain.
Non, mais si tu veux, il a tout.
Bah, prenons des exemples dans le foot français. Louis, par exemple.
Bah, Louis, ça a pas marché, hein.
Le retour.
Bah, ça a pas marché.
Gilbert Gress à Strasbourg, le retour, ça a pas marché.
Non, mais.
C'est là, tu parles de mecs sur le banc, en plus. C'est pas la même chose.
C'est compliqué.
Oui, c'est vrai que c'est pas un directeur sportif.
Moi, je reproche juste à Leonardo d'un moment. Déjà, c'est pourquoi il est parti, parce que même s'il avait une suspension d'un an, il aurait pu, dans ces cas-là, accepter et rester, avoir la même fonction, mais un peu plus loin du terrain. Déjà, c'est la première interrogation que j'ai. Donc, quand t'es attaché, comme il le dit, à un club, pourquoi il a pris ces dispositions-là? Et puis après, il faut aussi se rappeler, il y a eu des très bonnes choses de mis en place. Il était au début de ce projet des Qataris. Il a eu des fabuleux coups dans le recrutement, mais il y a des joueurs qui ont égratigné aussi l'image du club, et en l'occurrence, c'était Zlatan Ibrahimovic. Et bah Leonardo, il a l'impression qu'il avait pas entendu, quoi.
Donc, c'est vrai.
Donc moi je
attends, parce que là, est-ce que quand Ibrahimovic a commencé est-ce que Leonardo était encore là? Ouais. Ce à quoi je pense, c'était Blanc, l'entraîneur.
À Bordeaux là. Toi, ouais. Tu dis quand il pète un câble à Bordeaux, mais juste avant,
Leonardo, il est plus là déjà.
À Bordeaux, non, peut-être. Non, mais avant.
Je pense pas que Leonardo était là quand Ibrahimovic se lâchait.
Non, mais ce que je veux dire, il s'est quand même lâché tout au long de sa campagne. Il en a pas fait qu'une sortie.
Pas tant que Leonardo était là, j'ai l'impression.
En disant que avant il y avait rien à Paris. Ceci.
Mais Leonardo était pas là, je crois.
Si.
Je crois pas, moi. Je sais plus.
Mais bon, après, attends, on va pas. Moi, je te dis pas que ça serait dramatique. Au contraire, quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est sûr que là, t'es preneur, Leonardo. Je pense que c'est la facilité.
D'autres infos, vous dire que la DNCG a validé la situation financière de Lille. C'est la première fois depuis que Lopez est arrivé. Hein, donc c'est bien heureux. Là, cette fois, ils sont passés tranquilles, finger in the nose, à la DNCG.
Bah, oui.
Le Havre se sépare de son entraîneur Tanchot. Et c'est Paul Le Guen qui tient la corde pour entraîner.
Bonne nouvelle pour Le Havre. Hein. Ils ont prévu de redescendre en national.
Bon voilà. Sinon, les U20, la France a battu le Panama 2-0 cet après-midi. Je sais pas si vous l'avez suivi.
Pour l'instant, j'ai un calendrier compliqué. L'Arabie Saoudite, Panama, là.
Bernard Diomède, coach de cette équipe. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes.
Vous êtes le meilleur, Bernard Diomède.
Ah ouais.
Bielsa reste à Leeds. C'est officiel depuis aujourd'hui. Le club a communiqué. Voilà. Bielsa a rencontré le conseil d'administration. Il a confirmé sa volonté de continuer.
Il avait signé 2 ans ou 1 an?
Je ne sais pas.
C'est pas toujours 1 an, lui?
Oui.
Si, c'est 1 an, toujours.
Ouais, mais t'as pas, ouais, du moins, c'est, mais.
C'est pas la même législation en Angleterre, hein, qu'en France. En France, effectivement, c'est pas possible. Neymar n'est plus le capitaine du Brésil. C'est Dani Alves qui désormais est capitaine.
Dani Alves, capitaine, ça veut dire que Dani Alves, il part pour être titulaire à la Copa América?
Ouais. Exactement.
C'est étonnant, quand même.
Voilà, c'est vraiment étonnant.
Copa América qui démarre le 14 juin, la suivante.
Qui lui retire le brassard à Neymar, parce qu'ils estiment que son comportement très bien. On fait montre d'autorité, pas de problème. Dani Alves, ça je comprends pas.
Sinon, Besiktas suit de près Choupo-Moting.
Ah, c'est bien.
Il le kiffe.
Mais 20, 30 millions, 40 millions.
Là, j'ai pas, je t'avoue que j'ai pas de montant.
Beşiktaş est intéressé, mais alors, oui. Dis-moi, si il est turc, il regarde pas la télé, quoi. Parce que entre Mitroglou et Choupo-Moutin, mais
non, mais franchement, ils prennent sur le dixième marché.
Non, mais c'est abusé. Non, mais attends, fut un temps, c'était quand même mieux.
D'ailleurs, à ce sujet, il serait temps qu'on remette en place les chapeaux pour le mois de juin.
Ah oui.
Oui, du calme.
Il faut mettre les chapeaux en place.
Ah bah oui, là, la saison,
Parce que Choupo-Moting pourrait bien être hors chapeau.
On va le faire. Encore deux petites infos pour vous dire que
David
Sarri.
Lorton, on l'appellera pas parce que là, je crois qu'ils ont tous.
On est en veille de finale d'Europa League, hein. Demain, ce sera sur RMC. Demain soir, à cette heure-là, on en parlera. Et Sarri sera quitté l'entraînement énervé par ses joueurs.
Ah.
Donc, alors, je sais pas si c'est un coup de sa part pour les bouger et tout à la veille de la finale, mais enfin, le mec s'est barré. Et entraînement pourri et tout, il a trouvé ça nul, il s'est cassé.
Bah, écoute.
Ouais, non, bon, c'est grave.
Moi, je le dis comme ça.
De toute façon, tu sais, franchement, arrivé à un moment, tu prépares une finale, là, t'es tout seul. Hein. C'est le joueur, hein. L'entraîneur, il fait que subir. Hein.
En fait, il y a eu une engueulade entre Higuain et David Luiz, donc ça l'a énervé. Enfin, bon, il est parti.
Bon, et ça, puis, il devrait pas faire long feu.
Scandale du jour en Espagne. Il faudra que Fred Hermel nous en parle. Raúl Bravo et d'autres anciens joueurs du Real arrêtés aujourd'hui pour des soupçons de match truqué. Ah. Alors, il y a Raúl Bravo, il y a Borja Fernandez, Carlos Aranda, des joueurs qui
sont. Il y a des mecs du Real?
Bah oui, ils ont joué au Real tout seul là.
Raúl Bravo.
Ah, mais non, mais alors, je pense
non,
que c'est pas
rien.
Vrai.
Non, il y aura rien.
Je pense que c'est pas vrai. Ouais.
Raúl Bravo. Non,
Fred, ça rien passé. T'inquiète.
Donc, soit ça rien passé, soit il est pas au courant. Mais,
non, t'inquiète, c'est pas possible. Tout va bien.
Ils se sont quand même fait arrêter aujourd'hui, hein, donc.
Mais ça va.
Très bien. Allez, on va passer à Nantes dans quelques secondes, évidemment. Qu'est-ce que non, c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour. Je cherchais si j'avais une dernière info, mais j'ai fait le tour. Nantes, tout de suite. Le logo, le mercato.
Et le
Domènech.
Raúl du Real, c'est Raúl González, c'est Kita. Raúl Bravo.
Oui, là c'est Raúl Bravo, c'est un autre Raúl.
Ah.
Raúl Bravo, il a fait une grosse carrière au Real, mais enfin il a joué au Real, il a gagné une Ligue des Champions, le gars.
Raúl Bravo. Ouais.
Bah, hein. On fout mal quand même.
Non, mais je pense que
non, il va rester.
Nantes, donc au programme, supporters nantais, on vous attend. Et en plus, appelez-nous parce que j'ai des places à vous offrir pour le match France-Bolivie qui se passe où? À Nantes.
À Nantes.
Dimanche. Donc, c'est maintenant, c'est votre moment. C'est le moment nantais.
J'ai hâte. La... France-Bolivie, là.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Jérôme Bretagne est là, Daniel Riolo est là, messieurs, dames, le FC Nantes. Alors évidemment, la semaine dernière, on devait parler de Nantes avec le nouveau logo et puis on a été rattrapé par l'actu, on a dû décaler tout ça. Des fois rattrapé aussi parce que des fois je maîtrise pas tout le monde, hein. Des fois ça déborde et tout, donc je l'admets volontiers. On a repoussé, mais ce soir, ça y est, c'est le moment. Et on a avec nous un spécialiste du FC Nantes qui suit Nantes toute l'année, pour 20 minutes, mais aussi régulièrement pour RMC.
Il bras la phrase avant, il y avait rien, Leonardo était encore là.
C'est David Filippo. David, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme, salut à tous.
Salut.
Alors il y a plein de dossiers. Alors le dossier du jour, je sais pas si t'en es tombé de ta chaise, c'est que Kita aime Domènech, que donc pourquoi pas sur un malentendu, ça pourrait le faire. On va en parler dans quelques instants, mais prenons les choses étape par étape. On va parler mercato, on va parler des Kita père et fils. On vous attend au 32-16, surtout supporters nantais bien sûr. Mais en fait, il faut quand même qu'on démarre par cette histoire de blason et de logo qui a enflammé complètement Nantes. Bon, toi, qu'est-ce que tu en sais de tout ce qui s'est passé? Et est-ce que vraiment tout ça a été fait par quelques mecs dans leur coin à Nantes, je sais pas, le directeur du marketing et tout, sans aucune concertation?
Ah bah oui, ce qui est sûr, c'est que ça a été fait sans concertation. D'ailleurs, le jour de la présentation, mercredi dernier, il y a une semaine, ils ont reconnu hein, qu'ils n'avaient pas interrogé, ils n'avaient pas pu interroger. Ils voyaient pas trop comment faire en fait, comment interroger les supporters.
C'est pas trop compliqué pourtant.
Alors, ils l'ont fait sur d'autres. C'est ça qui était un petit peu surprenant. Mais le logo, ça fait un moment qu'on sait à Nantes qui va être changé. Ça fait des mois et des mois que la rumeur circule. Et il y avait même eu des fuites sur Twitter, un réseau social que vous connaissez bien, messieurs. Il y avait eu des fuites et ils ont vu à travers ces fuites, ils ont vu que le nouveau logo ne plaisait pas du tout.
Et c'était quoi la raison du changement?
Comment?
C'était quoi la raison du changement?
J'ai posé la question au directeur marketing Baptiste Curiez. Il me disait que c'était pour avoir un logo un peu plus épuré, un peu plus moderne, qui va mieux, par exemple, sur smartphone, sur les téléphones, quand on regarde les publicités. C'est ce qu'il a expliqué très, très concrètement. Ils avaient envie de changer, ça faisait maintenant, c'était 2007-2008 le dernier logo, c'était d'ailleurs à l'arrivée de Valdemar Quintard. On l'a oublié, mais quand il est arrivé, il a changé le logo, le blason.
Donc, un blason qui a souvent changé, qui a varié un petit peu, quoi.
Comment?
C'est pas la première fois qu'il change le logo, qu'il varie.
Exactement. Mmh. Exactement. Alors, il me semble à l'époque, mais ça remonte maintenant, qu'il n'y avait pas eu un tel tollé lorsqu'il avait il avait changé le logo. D'ailleurs, il avait
oui, mais à l'époque,
changé,
si tu peux me permettre, David, c'est quand même différent. Ouais. Il avait gardé les principaux attributs oui. du blason du club, c'est-à-dire il avait les étoiles de champion.
Ouais, il avait gardé les étoiles, il avait gardé le bateau, il avait l'hermine est toujours sur le nouveau logo, mais les étoiles, je sais que les supporters tiennent beaucoup à ça, les 8 étoiles des 8 titres de champion de France. Voilà, c'est quelque chose qui a choqué les supporters, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec un logo, on va dire, moi j'ai interrogé un publicitaire nantais la semaine dernière, il m'a dit le logo il est très épuré, il est plutôt moderne, il a de la gueule, c'est ce qui se fait. Et d'ailleurs le directeur marketing a eu une phrase absolument hallucinante le jour de la présentation. Il a dit on s'est inspiré un peu de ce que font Nike, Adidas, on va citer les marques, hein, désolé. Un gamin de 8 ans pourrait dessiner ça. Voilà, et c'est vrai que ça a fait rire beaucoup de supporters, parce que beaucoup ont rebondi sur cette phrase peut-être un peu maladroite, mais voilà, ils voulaient dire que ce logo était devenu et ils cherchaient à ce qu'il soit un peu plus moderne,
alors,
un peu plus épuré.
David, simplement. Juste sur cette histoire pour conclure, après on parlera de la suite du mercato et tout. Daniel, Jérôme, est-ce que pour vous un logo de club peut changer comme ça du tout au tout, ou est-ce que quand même il y a une histoire, tu vois, un truc à respecter dans l'institution, comme on dit maintenant,
change,
des clubs de
ça
foot.
Ça change souvent les logos, mine de rien, dans l'histoire d'un club. Le problème, c'est
passer du tout au tout comme là, peut-être.
Bon, là, c'est vrai.
Comme
que
la Juve aussi l'a fait, d'ailleurs.
Le changement est radical, et effectivement, quand t'enlèves au moins, peut-être si tu gardes les étoiles, déjà, qui ça fait référence à l'histoire du club et au titre, déjà, je pense que ça passe un peu mieux. Mais en fait, le problème, à travers ce changement de logo, c'est le rejet absolu de tout ce que fait le club.
Il y a une tout ce que fait Quintard.
Voilà, il y a une cassure. Quintard, ouais. Voilà, oui, c'est ce que je voulais. Mais le club, c'est lui en ce moment, c'est lui qui l'incarne, c'est lui le président. De toute façon, le contexte fait qu'aujourd'hui, ce gars-là est tellement détesté que quoi qu'il fasse, quelle que soit l'initiative, de toute façon, il y aura un rejet. La question, elle est là, c'est la question du contexte. Et David, très franchement, et récemment en plus avec les docs qu'on a vus et ce qu'a dit Salah avant de mourir, enfin c'est quand même incroyable d'être à ce point détesté quand même. Par qui il est aimé, Quita, au fond? Il fait quasi l'unanimité contre lui.
Alors, le truc aussi, c'est qu'il faut faire attention, il y a une minorité, enfin, je sais pas si c'est une minorité, en tout cas, elle est extrêmement bruyante. Voilà, les supporters les plus bruyants sont ceux qui sont contre Valdemar Quintard.
Ouais, ça date, hein, le problème date d'il y a très longtemps maintenant.
Comment?
Le problème n'est pas récent, il date depuis très longtemps maintenant.
Bah, quasiment depuis son arrivée, il y a une réticence. Dès qu'il est arrivé, Valdemar Quintard, à Nantes, il y a maintenant 12 ans, certains supporters, moi je me souviens d'une émission de télé locale de Télé Nantes, où certains supporters étaient invités sur un plateau, je me souviens de cette anecdote, et ils avaient sorti un dossier, mais de je ne sais combien de mètres de haut, sur ce qui s'était passé à Lausanne. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez,
Valdemar Quintard
est passé à Lausanne. Et lorsqu'il est parti, le club de Lausanne s'est effondré financièrement. Je ne sais pas si il y a un lien de cause à effet, en tout cas il s'est effondré. Et c'est vrai que dès qu'il est arrivé, il y a eu une certaine réticence.
Après, il y a eu un petit rabibochage au moment de la première montée. Il y a eu un moment où ça allait un petit peu mieux, et puis le fossé est réapparu, quoi.
Mais après, il a été très maladroit dans le côté communication.
Il a toujours été super maladroit.
Le personnage, c'est Pascal Praud, qui a incarné un peu la communication lorsqu'il est arrivé, où il a dit il faut arrêter avec les années, le jeu à la nantaise, il faut passer à autre chose. Et ça, c'était extrêmement maladroit, surtout dans une ville comme Nantes, qui est très refermée sur son passé.
Mais de toute façon, il y a plein de maladresses depuis qu'il est arrivé, ça c'est sûr. Déjà dans le choix des entraîneurs, dans les choix des hommes qui l'accompagnaient aussi. Et puis là, il y a une forme de maladresse encore, je suis désolé, mais le logo, bien sûr qu'il peut évoluer. Et là, c'est pas le seul club qui a fait évoluer son logo.
C'est pas le moment, c'est trop radical.
Déjà, y a déjà ce qu'il faut mettre aussi en, bon, il y a une année compliquée avec l'histoire, du moins le décès, la tragédie de Salah. Derrière, tu viens même pas demander aux supporters, on veut refaire le logo. Je sais pas, essaye de les mettre avec eux, de les mettre avec toi pour faire évoluer le logo. Et puis, et
tout comment, est fait en dépit du bon sens.
Comment tu peux avec un logo comme ça mettre l'histoire de côté? Mais s'il y a bien quelque chose qui rappelle l'histoire d'un club, c'est le logo. Le logo, c'est important.
On t'aurait enlevé la Tour Eiffel du logo du PSG, par exemple. Je pense que ça aurait fait un tollé. Hein.
Un carnage.
Mais vous savez, quand ils présentent le logo, ils envoient un message, pour l'anecdote, ils envoient un message 10 minutes avant sur les réseaux sociaux, sur le site internet du club, il me semble, pour dire « Nous nous excusons, c'est sans doute pas le bon moment pour présenter le logo vu la saison qu'on a vécue. Par ailleurs, donc deuxième chose, nous n'avons pas pu, c'est un regret, nous n'avons pas pu consulter les supporters. » On a l'impression qu'ils sont arrivés tête baissée pour présenter ce logo.
Mais ouais, mais c'est ça qui me... C'est ça, moi, qui me
Passons
dérange.
À la suite.
Non, mais... Gilbert, je suis désolé. Mais il y a plein de choses à dire, mais l'histoire c'est important. Et quand tu vois,
je suis bien d'accord.
Comment ces gens-là qui sont à la tête d'un club depuis tant d'années quand même, tu t'arrives pas à te rendre compte que l'histoire de ces clubs-là, encore plus actuellement, parce qu'ils galèrent. Nantes redevenir en haut de l'affiche est quasiment impossible aujourd'hui dans le championnat de France. Comment tu peux faire, tu mets ton passé de côté comme ça en un clinquement de doigts. Non, ça c'est inadmissible. Moi j'espère que vont réussir à faire quelque chose, parce que là,
alors, on va vous donner plein d'infos au-delà du logo, et on va tout à l'heure accueillir Pierre-Alain au 32-16. Alors Pierre-Alain, lui, veut défendre Kita. Hein. C'est assez rare d'avoir un supporter nantais qui veut défendre Kita, donc on va l'accueillir avec joie.
Attends, parenthèse, parce qu'il y a plein de contradictions et débats sur Twitter. Il paraît que, parce que moi, j'ai plus la mémoire fraîche, mais toutes les dérapages d'Ibra, c'est une fois que Leonardo était parti.
Donne-nous des infos mercato, David, sachant que les choses pourraient bouger dans les heures qui viennent à Nantes.
Alors, au niveau du mercato, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Adrien Trébel est vraiment pisté par la direction du FC Nantes. Je dis bien la direction du FC Nantes. Hein.
Pas le coach.
Je dis la direction. J'ai pas dit le coach. Adrien Trébel, ancien joueur du FC Nantes qui est actuellement en Anderlecht. C'est un joueur qui plaît énormément.
J'aimais beaucoup moi ce joueur.
Ouais. Et donc il est un peu. Il sort d'une saison de galère à Anderlecht. Et il se trouve que l'agent de Adrien Trébel n'est autre que Moji Baya. Je ne sais pas si vous souvenez de Moji Baya, qui est un proche de Valdemar Kita. Les derniers recrutements
c'est
ont
pas
été
un mec qui a les fesses totalement propres, quand même.
Il a été, il a eu des gros soucis avec la justice en Belgique. Je crois qu'il a payé pour ça. En attendant, voilà, ils sont.
Trébel, il a déjà joué à Nantes.
Il y a le nom de Samba qui est sorti notamment chez mes confrères de West France. Samba, le gardien de Caen, puisque Nantes risque de perdre au moins un gardien, Tatarusanu, ça c'est certain, il est en fin de contrat. Samba, moi selon ce que j'ai entendu, ça ne devrait pas se faire, a priori pour une raison simple, c'est que son agent est Messa Ndiaye. Messa Ndiaye, c'est l'agent d'Emiliano Sala, et vu ce qu'il s'est passé, et vu les relations qu'entretiennent les Kita avec Messa Ndiaye, ça peut compliquer très sérieusement
dossier
Samba.
Mais dis-moi David, la phrase là de Kita sur Domenech, enfin si tu veux assassiner la mémoire de Nantes et la tradition du jeu, tu pourrais pas faire pire que de prendre lui quoi.
Alors
c'est pas une maladresse, là ce serait un assassinat de l'histoire de Nantes.
Il dit qu'il apprécie beaucoup Domenech.
Oui, voilà. Mais par rapport à l'histoire de ce club et la façon que ils ont voulu jouer, tu prends un entraîneur qui pense que bien jouer c'est horrible et qui toute sa vie n'a pensé que à tailler et à déglinguer tous les entraîneurs qui parlaient de jeu et de philosophie de jeu, il déteste ça. Il est en opposition à ça. C'est l'assassinat de la tradition nantaise, tu fais ça.
Tu vois une stratégie de Monsieur Kita depuis qu'il est arrivé ou pas, une stratégie sportive?
Mais ce serait affreux.
Ça navigue un petit peu à vue sur le plan sportif.
Ce serait aux antipodes de la tradition nantaise.
Ah oui. Ouais, non, mais on est bien d'accord.
Là, on a un entraîneur qui déteste le jeu, quoi.
On est ensemble dimanche soir. Mais sincèrement, je pense pas que ça se fera entre Raymond Domenech et Kita. Et de toute façon, on va sans doute en parler, les gars, mais Vahid, Aliotic, il est toujours en place. Hein. Il est toujours sous contrat. Bon. Et là, il y a un vrai souci.
Et quels sont les rapports? Il en a marre, Vahid, déjà?
Alors, l'état des lieux, il est simple. Hein. Vous avez un entraîneur, Vahid Aliotic, qui ne veut pas démissionner, mais qui sait que sa direction ne l'aime pas, qui sait qu'il va vivre un enfer pendant le mercato.
C'est quand même incroyable. Encore une fois, quand je te demandais qui aime Keita, mais personne l'aime. Il s'embrouille avec tout le monde. C'est quand même fou, quoi.
Ouais. Alors, attention. Moi, juste, pour finir sur Vahid, et je pense que Jérôme va écouter avec attention. Vahid, il s'est aussi brouillé avec la formation. Il s'est brouillé avec certains joueurs. Il y a des joueurs, même beaucoup, qui sincèrement ne veulent pas reprendre avec Vahid Halilhodžić. Et d'ailleurs, je repense à ce que Jérôme m'avait dit il y a quelques mois. Je l'avais appelé en octobre lorsque Vahid était arrivé. Il m'avait dit « Tu verras, David, ça marche pendant 3 mois. » Et au bout de 3 mois, Vahid, c'est quand même très, très compliqué. Et c'est ce qui s'est vraiment passé à Nantes. Et moi, je voulais pas le croire quand Jérôme m'a dit ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Il s'est brouillé au fil du temps avec énormément de salariés, des joueurs, des membres de la formation. Il est arrivé plein de bonnes intentions au niveau de la formation. Il les a complètement délaissés. Il a quasiment fait jouer aucun jeune à part en fin de saison. Et donc, c'est vrai que c'est... Alors, entre Keita et Vahid, c'est la comédia dell'arte depuis quelques semaines. C'est « Tout va bien, Madame la Marquise ». Mais on sait très bien que les rapports sont extrêmement compliqués. Et je n'arrive pas à imaginer comment ces deux hommes vont pouvoir fonctionner plus longtemps et surtout vivre un mercato. Le juge de paix, ça va être le mercato.
Ouais, parce que donc Vahid, il a déjà dit l'hiver dernier, j'ai un peu mon mot à dire. Chèque.
Voilà, donc vous avez un état des lieux très simple, un entraîneur qui ne veut pas démissionner et un président qui ne veut pas faire de chèque, mais les deux hommes auront énormément de mal à travailler ensemble. Pour l'anecdote,
c'est marrant.
Il y a eu une énorme discussion après le match de Strasbourg vendredi, et là on m'a dit, j'ai eu quelques infos tout à l'heure, ça s'est très très mal passé, le ton est monté. Et c'était très très chaud entre les deux hommes.
Ouais. C'est marrant parce que c'est pas comme si on s'en doutait quand Vahid est arrivé, tu vois.
Ah ouais, non là. Ouais.
Non,
bah, Jérôme, tu t'en souviens.
Bah oui, ouais,
je me souviens très bien la discussion qu'on avait eue.
Bah exactement, mais de toute façon c'est Vahid tout craché. Après, moi je suis pas étonné, mais de toute façon ils peuvent pas continuer. Tu peux pas continuer déjà parce qu'il y a des déclarations de Vahid plusieurs fois.
Ce qui est incroyable dans cette deuxième partie de saison, quand il arrive. Tu savais pertinemment
que ça allait finir comme ça.
Ça allait finir comme ça.
Mais l'essentiel, ça a été de sortir le club un petit peu de la merde là.
Oui, c'était vraiment pas bien quand il est arrivé, Vahid.
Donc il y a eu une période compliquée là, ils ont super bien fini l'année, mais avant qu'ils fassent leur superbe série de fin de saison, il y a eu une période très compliquée quand même où ils étaient dans la mauvaise partie, on va dire. Ils se sont bien repris, ils ont bien fini l'année, mais Vahid, c'est un homme de coup, mais tu peux pas construire avec lui déjà parce que il a un âge avancé, il a une personnalité à part. Et que en effet, moi, tout ce que vient de dire David, je l'ai connu, et pourtant je l'ai pas connu longtemps, mais je l'ai vu faire. J'ai vu faire. T'es obligé de te braquer quand t'es joueur avec lui. N'importe quel joueur, même le joueur avec qui il avait le plus confiance au début, ça devient son ennemi au bout d'un moment. Donc tu peux pas avoir une vie de vestiaire comme ça. C'est pas possible. Toujours dans le conflit. Au d'un moment, et encore plus aujourd'hui. Donc non, mais pour moi c'est fini et c'est une question de semaine là.
Pierre Alain est là. Pierre Alain, supporter nantais. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Pierre-Alain, toi, et d'ailleurs il y a d'autres messages sur Direct Studio, il y en a par exemple Jean-Lien là qui arrive, mais où serait aujourd'hui le FC Nantes sans Keita? Faut arrêter de taper tout le temps sur lui, me dit Julien. Qu'est-ce que t'en penses toi Pierre-Alain?
Non, moi j'en pense que c'est vrai, on oublie facilement qu'il nous a quand même sauvés, parce que s'il avait pas été là à l'époque où il est venu, quand même on était...
Ah ben le club était en voie de disparition, très clairement. C'est
compliqué. Et voilà, après, là, vous étiez en train de parler des entraîneurs. Moi, je faisais un petit tour comme ça des entraîneurs que j'aurais aimé voir l'année prochaine si jamais ils partaient. Moi, comme ça, j'ai qu'un seul nom qui me vient en tête. C'est enfin, il y a Di Francesco, que j'aime bien, et il y a aussi Lopetegui. Mais vu qu'on parlait des...
Je sais pas si c'est pas trop grand pour Nantes, quand même, tout ça, là. Tu veux pas Domenech, plutôt?
Hein, comment?
Domenech, tu veux pas?
Non, Domenech, je veux pas. Non, je te remercie, c'est gentil. Je te le laisse, par contre, si tu veux. Je le laisse à l'équipe. Il est très bien là-bas. Et non, après il y a Gourvenec, mais Gourvenec il viendra pas parce qu'on sait tout ce qu'il sait, il va pas pouvoir s'entendre avec Keita non plus. Donc après c'est un défi, c'est quelqu'un qui est très très compliqué à gérer parce que c'est un peu comme celui de Lyon, comme Jean-Michel Aulas, où voilà, c'est quelqu'un qui s'implique énormément. Le problème c'est qu'il a pas eu le succès de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas a quand même un aura et a quand même réussi à faire à Lyon des choses que lui pour l'instant a pas réussi à faire. Après, vous parliez tout à l'heure, moi, du logo. J'avais appelé pour ça à la base. Ouais. Le nouveau logo, la seule chose que je reproche au nouveau logo, c'est qu'il n'est pas les 8 étoiles. Après, il est magnifique, le nouveau maillot. Personnellement, moi, je le trouve absolument fabuleux. Pourtant, je ne vis plus à Nantes et je l'ai acheté déjà pour qu'il m'arrive à la maison. C'est le plus beau maillot qu'on ait eu depuis au moins 15 ans.
Mais je l'ai pas vu, moi, le nouveau maillot.
Il est jaune, évidemment, avec des bandes vertes un peu stylisées, quoi.
Mais je l'ai pas vu. D'ailleurs, il fait un carton. Ouais, depuis une semaine, faut le dire. Il a été le plus vendu.
Je le vois, là, disons.
David confirme donc le carton commercial de ce maillot. Il y a quand même un truc. Bon, on entend évidemment beaucoup toujours les anti-Kita s'exprimer. Bon, les ultras, la fameuse bande là, la sauce à la nantaise. Ouais. Je pose la question d'abord à David et ensuite à Pierre-Alain. David, est-ce que au final les anti-Kita sont une vraie majorité imposante ou alors est-ce que finalement c'est une minorité très bruyante et qu'il y a une majorité finalement silencieuse? Qui est plutôt, elle, soit pro-Kita, soit indifférente à Nantes.
C'est une bonne question, et c'est vrai qu'on s'en rend compte parfois au stade. C'est arrivé cette saison, parfois, lorsque la tribune noire, alors qui balançait des colibés, des insultes, des chants insultants vis-à-vis de Kita, faisait du bruit. On a parfois entendu des sifflets venant des quatre coins du stade de la Beaujoire. Donc c'est difficile, finalement,
Il est beau, le maillot de Nantes. Oui, je l'ai vu, oui.
Et par exemple sur les réseaux sociaux, alors si vous allez sur Twitter, alors là vous allez sur le Twitter FC Nantes, ce sont quasiment que des anti-Kita. Hein, ouais. Là vraiment Twitter, c'est une majorité d'anti-Kita. Donc c'est compliqué. Mais moi des supporters que je côtoie et pas du tout des ultras, pas des gens de la tribune noire, on sent une vraie lassitude quoi, parce que les gens se disent en fait ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Ça va faire 12 ans que ça dure. 6 changes d'entraîneurs, ça pourrait faire 16 entraîneurs en comptant les intérimaires et en comptant deux fois Derzakarian, ce qui serait quand même incroyable pour un club comme Nantes quand on connaît la stabilité de ce club pendant toutes ces années, les années 70, 80, 90. Et ça ferait 16, quoi. 16 en 12 ans. Voilà. On
Pierre
pourrait
Alain.
S'y vaillir des virer.
Oui. Pierre-Alain, un truc à rajouter?
Non, rien, vous remercier parce que j'écoute votre podcast presque tous les jours, donc du coup vous remercie à tous et à David aussi du coup qui travaille depuis Nantes, mais voilà, même si j'y vis plus, voilà, c'est un plaisir de vous avoir parlé.
Merci Pierre-Alain.
Merci à toi de nous écouter surtout.
Exactement, et tu le rappelles quand tu veux, t'es le bienvenu dans l'after, comme tout le monde d'ailleurs. Dans quelques instants, on continue le débat autour de Kita et des Nantais. J'en reçois énormément de messages sur Nantes, sur le blason, sur la suite et tout. On va continuer de parler mercato ensemble à Nantes avec David Filippo qui reste avec nous. On revient dans quelques instants. Évidemment, Vaïd nous écoute. Il souhaitait réagir, Jérôme. Oui. C'est tout de suite.
Ta gueule. Hier soir, quand j'entrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi.
Voilà.
C'est pour moi.
Un classique.
Bah oui, c'est pour moi.
Un classique, mais ça marche toujours.
Non, il me parle plus, moi.
Ah, tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et là bien sûr David Filippo avec nous ce soir pour parler du FC Nantes, de son avenir, des relations du moment également, et bien sûr le 32-16 est ouvert pour vous tous si vous souhaitez réagir à nos débats. Kita qui a aussi des rapports compliqués avec les médias. Je sais que même toi, David, des fois, tu t'es fait un peu tenser lors de conférences de presse. Oui, monsieur Filippo, quand même, vous exagérez. Pas facile quand même au quotidien.
Il y en a qui l'imitent mieux que toi, hein. Provocateur.
Non, oui, bah oui, on a été victime un jour d'un imitateur de Kita, d'ailleurs, qu'on n'a jamais identifié, qui avait été très bon.
D'ailleurs, Valdemar Kita, on l'entend très très peu, hein, depuis plusieurs mois.
L'année dernière, dans Transversal, il avait été très bon.
Et justement, il a eu cette phrase, hein, on n'a pas besoin de s'aimer, c'est pas grave si on ne s'aime pas, le principal c'est qu'on puisse travailler ensemble. Il a eu cette seule bonne phrase, et c'est vrai qu'on l'entend très peu, il est extrêmement discret depuis plusieurs semaines, Valdemar Kita.
Alors, quelques messages. Je vous les lis, hein. Il y en a beaucoup qui arrivent sur Direct Studio. Antoine qui nous dit, on réagit les gars, hein. À Nantes, on n'est même pas dans le top 19 du kiff. Zéro émotion. Les supporters de Lens ont plus vibré que nous cette année. L'année dernière, on commence bien, mais derrière, le jeu est bidon. Quelle est la dernière bonne décision que Kita a prise ? Pose la question
Ouais, c'est un
Antoine.
Club qui devient un peu anonyme. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais c'est ce que je dis toujours pour tous ces clubs là qui ont pas de réel objectif dans une saison entre se maintenir et la huitième place. Il faut qu'ils trouvent un truc. Il faut qu'ils trouvent un truc pour accrocher ne serait-ce que d'abord leurs supporters à eux.
Il l'avait fait avec Sergio contre Sao. Pardon. Ça, ouais, ça avait été quand même un truc positif.
Bah ouais. Non, mais attends, c'est exactement ce que je te dis. Quand c'est ça, au plus il le prend, ça lui tombe un peu dessus, super bonne nouvelle, ça va. Donc, trouve un truc. Il faut que t'accroches du monde. Parce que sinon, t'es dans l'anonymat de la Ligue 1 et tu fais chier, tu fais chier les gens, et finalement on parle pas de toi, et c'est pour ça que chaque club devrait se trouver quelque chose, une histoire à se raconter. Bon, maintenant, t'avais cette vieille tradition du jeu. Eh ben, ils n'auraient jamais dû déroger de ça. Et ils auraient dû continuer parce que c'était la seule réelle école en France qu'on avait qui faisait jouer les mômes de tout petit jusqu'à grand de la même façon. Ouais. On avait que ça. Et à un moment, on a eu à Auxerre, ils faisaient la même chose. Dans un style différent.
Pareil.
Même chose. Mais bon, on avait réellement Nantes comme identifié. Quand on regarde toujours à l'étranger, machin, en France, on en avait un. Bah, c'était pas forcément compliqué de continuer ça, parce que même si t'avais pas beaucoup d'argent au moment où Nantes en avait plus, ça ils auraient pu continuer. De toute façon, Nantes a jamais été un club qui a eu des tonnes en caisse, hein. Mais ils ont construit leur histoire là-dessus. Moi, j'aurais foutu mes ronds. Mais j'aurais foutu, plutôt que d'avoir pris des entraîneurs, de les avoir licenciés, d'avoir payé, j'aurais mis 6 millions dans le centre de formation.
Eh oui, mais il est là le problème.
Et bon, alors après, à un moment, ils ont eu du mal, hein, dans leur histoire, parce que Rennes a piqué à peu près tous les joueurs de la région.
Justement,
hein,
non, David.
Mais avec ce qui restait, il fallait qu'ils entretiennent, qu'ils continuent là-dedans.
Parle-nous de la formation, David. Ouais.
Mais la formation, elle marche pas si mal que ça. On le voit avec les résultats. Alors, par exemple, cette saison, la N2 est championne pas championne de France de N2, en tout cas. Elle a fini première de son groupe de N2. Mmh. Les U19, je crois, sont 3e ou 4e, faudrait vérifier. Les U17 sont en finale du championnat de France. Et surtout, ce qui rapporte finalement, parce qu'on parle beaucoup de mercato avec Monsieur Kita, mais ce qui rapporte de l'argent depuis qu'il est arrivé, il a quasiment jamais fait de plus-value, hormis Emiliano Sala, mais bon, pour l'instant, il n'a pas touché l'argent, mais il n'a quasiment pas fait de plus-value sur un recrutement. Les seuls joueurs qui lui ont rapporté énormément d'argent, ce sont des joueurs du centre de formation, c'est-à-dire Verretou, Nkoudou, Harit, que des joueurs qu'il a vendus, Harit et Verretou, autour de 10 millions.
Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire, moi, David.
Là, il va peut-être vendre Valentin Rongier, je sais pas, entre 10 et 15 millions été. Donc la formation, elle continue de tourner.
Non, mais c'est pas ça que je dis, moi, qu'il y ait des joueurs de temps en temps
pour les supporters nantais et aussi pour les gens de la formation.
Non, mais c'est pour.
Moi, c'est pas ça que je disais, David. C'est pas. Moi, je me fous. En l'occurrence, c'était pas mon propos. Très bien, si ça marche, s'il y a des joueurs qui sont. Non, moi, je disais que pour ne pas être dans l'anonymat dans lequel ils sont, c'est continue la vieille tradition, fait jouer les mecs d'une certaine façon dans toutes tes catégories. Avec des gens qui bossent depuis des années dans toutes les catégories de la même façon.
Oui, mais Daniel, pas qu'ils ont sorti personne et tout ça. Au plus haut niveau, enfin un technicien.
Là, quand tu me dis Nkoudou et Harit, c'est deux styles complètement différents. Tu vois, ça veut dire que, bah, en fonction des générations, t'as eu des bons joueurs.
Là, Thomas, tiens, par exemple, cite des jeunes là qui arrivent, là, Yuan qu'on a vu contre Strasbourg d'ailleurs, Louza,
c'est pas ça que je disais,
Pasila.
Enfin, ils veulent faire des listes, ils font des listes, mais c'est pas ça que je disais.
Non, mais dire, apparemment, il y a quand même des gars.
Non, mais moi, je comprends.
Qui peuvent
non mais je comprends ce que disait Daniel, c'est que il y avait une tradition à Nantes, t'avais un profil de joueur à Nantes, tu pouvais pas avoir tous les profils qui rentraient dans le jeu à la nantaise, et que ce jeu à la formation, c'était le cas. Moi, j'étais en plein dans quand je jouais, quand j'étais jeune, et quand jouait Nantes, t'avais l'impression de voir l'équipe une en place, parce que il y avait le même profil de joueurs, et que en effet, à force de jouer ensemble, un peu le profil de l'Ajax aujourd'hui, on en parlait la dernière fois. Alors, ça arrivait à monter, à arriver au niveau professionnel. Des fois, il y en avait qui jouaient pas au niveau professionnel,
parce que l'équipe elle était bien en place, mais au moins t'avais ce profil là qui était mis dans ce club en position. Aujourd'hui, tu sais,
fallait se raccrocher à ça, s'accrocher pour toujours à ça, ne jamais en sortir.
Exactement.
Parce que au final, ça coûtait certainement moins d'argent que certains transferts qu'ils ont fait ou certains entraîneurs qu'ils ont dû
limoger. Il est où le problème.
Tu foutais tout là-dedans, tu faisais respecter dans chaque catégorie et tu gardais cette identité là. Au moins t'avais Nantes, bon bah voilà, c'est au moins tu savais de quoi tu parlais là aujourd'hui.
Aujourd'hui, le Suedo, le Donuex, tout ça, ils n'existent plus à Nantes. Donc,
mais il y a
donc
cette identité chez les jeunes. Mais comment voulez-vous, quand il y a aussi peu de stabilité chez les
mais
pros,
c'est ça.
Avec
exactement.
Un changement d'entraîneur tous les 6 mois, avec une équipe qui joue le maintien, comment voulez-vous que des jeunes puissent aller en pro?
Mais c'est
compliqué.
C'est pour ça que le profil déjà de l'entraîneur numéro 1, c'est important.
Voilà.
C'est important.
Exactement.
D'avoir un directeur sportif. C'est toujours, on en revient toujours à la même chose. Ouais. T'as l'impression qu'on se répète avec tous les clubs français qui ont une histoire. C'est que aujourd'hui, le profil, quand tu prends un Vahid Halilhodžić, je suis désolé. Moi, Vahid, je respecte tout ce qu'il a fait dans le football. Écoute, hein, c'est le premier à dire magnifique entraîneur, le joueur, voilà. Mais Vahid, son temps est passé. Tu peux pas construire avec Vahid, c'est pas possible. La preuve, c'est que là, il t'a fait une année, une petite année, et hop, il va s'en aller. Donc non, il faut arrêter, il faut mettre un entraîneur avec Conte Sao, avec peut-être ce profil là pour transformer un petit peu tout dans ce club. Il avait commencé à le faire, malheureusement ils l'ont perdu. Il faut essayer de repiocher un entraîneur comme ça. Après, ça fait partie du recrutement du directeur sportif pour que ce club au bout d'un moment arrive de nouveau à exister sur la scène française.
Salut Benoît.
D'ailleurs, ils ont du mal à faire le deuil de Conte Sao.
Ça c'est
mal,
sûr.
Parce que c'était un coach qui leur correspondait tout à fait. Valdemar Quita avait un peu peur de lui, donc on l'entendait quasiment pas quand il y avait Conte Sao.
Salut Benoît.
Salut, bonsoir.
Benoît, supporter bonsoir. Nantais. On t'écoute là, t'as entendu plein de choses, hein, on a donné quelques infos mercato et tout. Quelle photographie tu fais toi de ton club aujourd'hui là?
C'est pas la joie. En fait, le problème, je pense que Monsieur Quita, j'ai rien contre lui. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui nous a sauvés à un moment donné. On était au fond du trou. Mais le problème aujourd'hui, c'est que il veut tout faire. Et dans un club, faut savoir déléguer. Il devrait prendre l'exemple sur Monsieur Aulas, qui vient de changer peut-être de fusil d'épaule. J'ai vu tout à l'heure la conférence de Juninho. On sent vraiment qu'Aulas laisse les clés quand même. J'ai l'impression en tout cas va laisser les clés du camion à Juninho, quelqu'un qui connaît le foot, qui a du réseau, des contacts. Je pense que c'est quelqu'un comme ça qu'il nous faudrait à Nantes. Et puis un entraîneur sur la durée, quoi. C'est pas possible de faire des entraîneurs qui font un an et qui sont bons, quoi.
Benoît, t'habites à Nantes?
Oui.
Je t'offre 2 places pour le match de l'équipe de France dimanche.
Ah, nickel.
C'est cadeau.
On va peut-être voir du football, alors.
Voilà. Bah, écoute, Benoît, on va.
Ouais, la Bolivie surtout.
Salut, Benoît. Merci.
Ouais, la Bolivie. Merci, au revoir.
Au revoir. Salut, David, merci beaucoup.
Juste, Gilbert, ça fait 2 fois que j'entends Valdemar Quita, il nous a sauvés, on était au fond du trou, mais pourquoi les gens disent ça? En 2007, il y avait au moins un autre preneur avec Valdemar Quita, hein, en concurrence. Donc je vois pas pourquoi il y avait d'autres gens qui étaient prêts à prendre le club. Donc je vois pas en quoi il a sauvé le club. Voilà.
Merci pour cette conclusion. Salut, David. Et à très bientôt pour reparler de Nantes.
Merci, à bientôt aventures. Les gars.
Ciao. Salut, bonne soirée. 23h55, Jérémy nous rejoint. Salut Jérémy.
Salut.
Alors Jérémy, t'es là parce que tu nous as écrit une lettre. T'es auditeur de l'After, hein, depuis combien de temps?
Depuis 2007.
Depuis 2016, ça fait un petit moment, donc t'as vu l'émotion évoluer, t'as fait une analyse franchement assez bluffante. Écoute, on est content que tu sois là déjà.
Je vous remercie de l'invitation, c'est un plaisir d'être là, c'est assez impressionnant.
Et pour te dévoiler la coulisse de ce qui s'est passé avec ta lettre, c'est assez extraordinaire parce que tu as envoyé la lettre en copie à Gilbert à moi, séparément.
Oui.
J'ai pris mon courrier ce matin.
Donc, d'accord.
Alors qu'il a
été arrivé 15 jours de retard sur le courrier.
Oui, parce que j'allais dire, ça fait 2 semaines quand même.
Oui, mais pas à la bourre. Ce matin, je suis arrivé pour les GG, j'ai pris le courrier, j'ai lu la lettre avant de faire l'émission. J'ai trouvé très intéressant. Je suis arrivé ce soir, j'ai dit à Gilbert, t'as dû la recevoir aussi. J'ai reçu une lettre d'un mec. Franchement, c'est vachement bien. On devrait l'inviter. Et Gilbert, il me dit, ça tombe bien, il est là ce soir.
Super.
Voilà. Et on n'en avait pas parlé, on s'était pas parlé.
Bah, je suis content. Voilà,
c'est ça une émission, on n'a même pas besoin de se parler, alors, on sait déjà ce qu'on va faire.
Dans ta lettre.
Vieux couple, donc voilà. C'est normal.
C'est ça. Dans ta lettre, il y a un truc, que j'aimerais que tu développes. Oula. Le rapport entre les ex-footeux et nous et les auditeurs.
D'accord. Non, mais alors il y a plein de sujets, mais c'est vrai que celui-là,
particulièrement.
Il y a plein de sujets dans sa lettre.
Oui, mais je comprends bien pourquoi celui-là on va axer dessus. Puis surtout que ça a fait l'objet de débats entre Jérôme et Daniel. Hein, je me permets d'utiliser les prénoms parce que ça fait quelques années que je vous écoute maintenant tous les matins. Effectivement, moi en fait, ce que je mettais en avant dans la lettre, c'est le fait que Daniel, en fait, de façon contradictoire, disqualifie souvent comme de façon clair l'auditeur comme un a priori, l'avis de l'auditeur est souvent disqualifié par Daniel parce qu'il n'aurait pas de connaissances footballistiques forcément longues ou claires, etc., légitimes. Et donc moi, ce que je disais à Daniel dans ma lettre, c'était que ce que je comprenais pas, c'est que finalement il fait à l'auditeur ce que certains footballeurs professionnels lui font, c'est-à-dire ils remettent en cause sa légitimité à parler foot. Alors que Daniel, alors pas forcément vous, Jérôme. Hein.
Et Daniel surtout râle.
Enfin, et Daniel râle forcément,
il aime bien, ça.
comme une sorte de réflexe, mais c'est pour ça aussi qu'on l'aime. Mais donc, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, donc du coup, les anciens footballeurs professionnels disqualifient son avis. Daniel dit qu'il a des connaissances footballistiques lui aussi, puisqu'il a fait beaucoup de livres, il a interviewé des entraîneurs, des joueurs, il a observé, etc.
Il devrait être un peu plus bienveillant.
Effectivement. Qui met en avant une autre forme de légitimité, une légitimité journalistique. Et donc moi, ce que je lui dis, c'est s'il te plaît, Daniel, prends comme un a priori positif l'auditeur, c'est-à-dire inverse le processus et dis-toi que l'auditeur a potentiellement un avis légitime et des connaissances légitimes avant qu'il sorte potentiellement une bêtise. Et ce que je disais dans la lettre, c'est avant que potentiellement, par exemple, ils disent que Luis Fernandez était plus technique que Platini. Effectivement, un truc aussi horrible, aussi gros, disqualifierait son avis. Mais moi, ce que je disais, c'est qu'avant qu'une énormité comme celle-là puisse être sortie, eh ben, écoutons-le, respectons-le, parce que des fois aussi, ce que je disais, c'est que depuis quelque temps,
la
bienveillance.
Jérémy Jotel.
En fait, non, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, il faudrait que tu puisses lister le nombre de fois où ça m'est arrivé de le faire sur des avis qui ne sont pas des énormités comme tu viens de mentionner.
Oui, mais alors après.
Et je pense pas, et malheureusement, je pense pas que ce soit arrivé au final, hein. Et d'ailleurs, en plus, dans ta lettre, tu dis, tu fais par rapport au passé et au présent, mais honnêtement, on va dire entre 2008-2012, mais je pense à ce moment-là avoir été beaucoup plus dur avec les éditeurs qu'aujourd'hui.
Alors moi, je t'ai trouvé beaucoup plus violent avec les interlocuteurs du foot au début qu'avec les auditeurs. Je trouvais.
Il y avait des gens faisaient des compiles, tu peux encore les retrouver sur YouTube.
Mais après, ce qui est compliqué,
on a complètement changé de ce côté-là. On a complètement changé dans le rapport aux auditeurs. Moi, il m'arrivait de les envoyer chier de force et tout, mais non, c'est même d'avant. Mais il faudrait, je suis toujours Jérémy, voir le nombre de fois où je bâche si ça n'est pas sur des énormités, peut-être pas aussi grosses que Louis.
Oui.
En un mot, Jérémy, l'évolution de l'acheteur là.
Franchement, je ne crois pas. Hein.
Alors, juste pour répondre à Daniel vite fait, c'est que l'énormité, en fait, elle est à géométrie variable aussi des fois. C'est-à-dire que il y a une énormité. C'est pour ça aussi qu'on devrait faire un débat plus long. Mais donc mais moi, non, ce que je disais sur l'after.
Non, mais si tu veux continuer, on continue. Mais Jérôme, ou quand avec Dugas, on a eu ce genre d'explication. Quand on a eu ce genre d'explication.
Mais je
le problème, c'est que dans les faits, sur les débats qu'on pouvait avoir, les faits me donnaient pas tort.
J'ai pas dit ça.
Donc si jamais ça pouvait. Non mais bon, allez.
Et c'est top, les gars.
C'est pas tant le fond que la forme.
Je m'appuyais en fait uniquement là-dessus, moi.
En tout cas, on va essayer, Daniel, de donner plus la parole aux auditeurs qui viennent comme ça.
J'ai pas envie de refaire une deuxième lettre avec.
L'intention de l'after était. Elle te plaît?
Alors, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas parce que, à mon sens, il y a une éditorialisation à l'excès de l'after. C'est ce que j'ai. Alors pas ce soir. C'est une émission que j'ai bien aimée parce qu'il y avait beaucoup d'infos,
beaucoup
etc. Beaucoup de factuels et beaucoup du coup de débats à partir du factuel, à partir de faits, voilà, empiriques. Mais souvent.
Quand est-ce qu'on le fait pas, par exemple? Quand est-ce que c'est pas à partir de faits?
L'after type qui dure une heure, c'est vrai que c'est compliqué, peut-être, pour vous, de mener des débats au long cours.
J'ai envie de plus d'infos.
Reviens.
Eh ben, avec plaisir. J'habite à côté, je suis à 5 minutes.
Tu vas revenir parce qu'on va aller au fond de ta lettre, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui comme ça. Toi,
c'est ça?
Que j'invite depuis longtemps. En plus, il se trouve que récemment, j'invite
bah, Gilbert.
Il faut absolument qu'on fasse un after et vous.
Que les mecs, d'ailleurs, on
il
n'y
a aucune autre émission n'invite des gens à venir discuter comme toi. Et c'est pour ça qu'on a voulu le faire.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Non, non, mais reviens et on invite d'autres même à téléphoner s'ils sont pas à Paris pour parler de ce genre de choses, de l'évolution de l'émission et de comment ils vont le faire.
Merci encore de m'avoir.
Je vous envoie mon chauffeur.
Et l'after revient demain après la finale de l'Europa League. Bye bye.
RMC L'After Foot.